Merci Frédéric Seitz. Donc vous nous avez rappelé, enfin vous avez rappelé à la jeune génération qu'il ne fallait pas rester hors sol, mais bien réancrer la technique et les événements architecturaux dans le contexte historique. Et du coup, Danielle Vollmann, qui a été une pionnière en histoire de cette époque, qui a appartenu à un grand centre, l'Institut d'Histoire du Temps Présent, qui s'est consacré à l'étude de la période de l'occupation, enfin pas seulement à ça, mais beaucoup à ça. Du coup, j'ai la joie donc de te demander de venir nous parler de l'épuration qui a eu lieu, qui n'a pas eu lieu. Enfin, ça, c'est à toi de nous le dire.
Bon, je vais essayer de parler de cette question de l'épuration des architectes qui, finalement, se trouve en filigrane de tout ce qu'on raconte depuis ce matin, qu'ont fait les architectes sous le régime de Vichy. Et pour le dire de façon schématique, ont-ils été des collaborateurs? Ont-ils été des résistants? Se sont-ils accommodés? Ont-ils été opportunistes? Alors, je vous dis tout de suite que vous allez être déçus, parce que je ne vais pas pouvoir répondre vraiment à la question. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Premièrement, tout au long de l'entre-deux-guerres, et Frédéric Seitz vient de nous le rappeler, les architectes avaient réclamé une organisation de leur profession, organisation qui avait pour but de protéger le titre. Leur idée, c'était qu'il y avait des tas de gens qui n'avaient pas de diplôme, ni des beaux-arts, ni des écoles régionales, ni de l'école spéciale, et qui faisaient de l'architecture, et qui d'ailleurs se donnaient le titre d'architecte. Ils visaient les ingénieurs, les maîtreurs, les géomètres, éventuellement même les conducteurs de travaux et les entrepreneurs, si je ne les ai pas déjà nommés, je ne me souviens plus. Et on recensait en 1939 environ 12 000 praticiens, surtout quasiment que des hommes, quelques rares femmes, qui se disaient architectes. Mais ils étaient loin d'avoir tous le titre d'architecte, ni des PLG, ni des SA, rien du tout. Donc, ils se sont efforcés dans l'entre-deux-guerres d'avoir cette protection que les ingénieurs ont obtenu en 1934. Leur titre a été protégé en 1934. Et il y a eu plusieurs projets qui expliquent pourquoi certains ont la mémoire que l'ordre a été constitué en 1936, parce qu'en effet, dans les années 30, il y a eu plusieurs projets de réglementation du titre qui n'ont pas abouti pour un certain nombre de raisons, mais surtout à cause de l'individualisme de la profession qui voyait très mal une organisation qui aurait encadré leur génie artistique, pour être un peu schématique et aller vite. C'est pourquoi, quand en décembre 40, l'ordre est constitué, la plupart des architectes sont très contents. Pour eux, c'est une aubaine. Enfin, leur titre est protégé. Alors, évidemment, par rapport au projet des années 30, et en particulier du Front populaire, si tant est qu'il y en ait eu, la création de l'ordre, c'est en effet une organisation professionnelle, mais c'est une organisation professionnelle corporatiste. Ça rentre dans l'idéologie vichyste du corporatisme, c'est-à-dire que sont supprimés, puisque l'ordre est constitué, les syndicats, les associations, les fédérations, toutes les sociétés de défense de la profession, je dirais, organisées de façon libre, sous le mode, on va dire, associatif. Cette création de l'ordre, donc, semble bienvenue, et en tout cas, elle joue son rôle, puisque si on recense environ 12 000 personnes qui pratiquent l'architecture en se donnant ou non le titre, en tout cas qui peuvent signer des projets comme architectes, en 44 ou 45, ils sont plus que 6 000. Ça veut dire qu'il y a la moitié des praticiens d'avant la guerre qui ne peuvent plus porter le titre et qui ne sont plus protégés. Alors, qui sont ces 6000 écartés, eh bien, les géomètres, les ingénieurs, les maîtreurs, les entrepreneurs qui n'avaient pas le titre, plus un certain nombre de gens qui sont écartés, les étrangers, alors qu'avant avant la guerre, ils pouvaient être là, on l'a dit tout à l'heure, les juifs, sauf ces fameux 2% qui sont autorisés à s'inscrire au tableau. Et alors là, on pourrait, je n'ai pas beaucoup de temps, mais les contradictions dans lesquelles se sont débattus les responsables de l'ordre, puisque certes, il fallait faire la déclaration de ne pas être arien, et si on était un homme, de ne pas avoir d'épouse non-arienne, mais en même temps, si on était juif, on pouvait quand même faire une demande d'inscription à l'ordre, qui était accepté ou non, si qui était accepté si on n'était pas à 2%. Donc c'était un peu contradictoire. Plus, et là on arrive au off dont on parlait tout à l'heure, un certain nombre d'architectes qu'il est impossible pour l'instant de comptabiliser, je vais essayer de l'expliquer, qui refusent de s'inscrire en disant cet organisme qu'on appelle de nos voeux, il n'est pas ce qu'on voudrait. Et donc, par opposition au régime de Vichy, un certain nombre, je ne sais pas combien, ne s'inscrivent pas. Par ailleurs, ça c'est le premier point pour essayer de comprendre l'épuration. Le deuxième point, c'est que, et on l'a dit aussi plusieurs fois depuis ce matin, le régime de Vichy fait de la reconstruction un objectif de la Révolution nationale. Or, on l'a dit aussi, les architectes sortent d'une période de marasme. Il y a eu une embellie à la fin de la Première Guerre avec la première reconstruction, mais à partir de la fin des années 20 et surtout tout au long des années 30, la commande s'est restreinte. Ils avaient du mal à boucler leur fin de mois, à payer leur loyer, comme disait Jean-Louis tout à l'heure, à avoir des commandes. Et l'idée qu'un régime qui, un, leur donne cette fameuse organisation qu'ils attendaient depuis longtemps, et deux, dit qu'il va reconstruire, que c'est un objectif prioritaire de la Révolution nationale, ça ne pouvait que leur sembler une aubaine et leur sembler un régime qui prenait en compte leurs objectifs professionnels. Donc, on peut dire que l'adhésion au régime semblait logique. Surtout que, et c'est un autre élément, si on étudie qui sont les architectes à la fin des années 30, ce sont plutôt des notables et ce sont plutôt des conservateurs. Bon, là, c'est un peu schématique, ça va vite, mais disons que ce n'est pas une profession qui s'est signalée par ces idées très arrêtées du côté de la gauche, là aussi, pour aller vite. Alors, on trouve en effet peu de grands noms de l'architecture parmi les opposants. Frédéric a eu du mal à en trouver 5, si j'ai bien compris, à l'école spéciale. Bon, l'école spéciale, c'est pas tous les architectes, mais tout de même. Et si on regarde, non pas du côté des grands noms, mais du côté de ceux que j'appelle les praticiens ordinaires, les hommes de l'art ordinaires, bon, on n'en trouve pas beaucoup. Il y en a quelques-uns qu'on trouve au détour de plaques, parfois, où on voit quelqu'un, un résistant ou quelqu'un qui a pris part à la libération de Paris, par exemple, où on met architecte, c'est rarissime. Dans des dossiers de demande d'agrément, où les gens qui demandent leur agrément pour travailler au chantier de la reconstruction après la libération donnent une sorte de curriculum où ils peuvent faire état de leur action pendant la résistance, ou bien des gens qui demandent des dommages de guerre. Enfin, on peut les trouver, mais on les trouve de façon détournée. Donc, la question, c'est est-ce que l'épuration pour ce groupe professionnel a été, dès lors qu'on dit qu'ils ont adhéré avec un certain enthousiasme au régime et que surtout ils ont été d'une certaine façon choyés par le régime, est-ce que l'épuration a été plus sévère pour eux que pour d'autres groupes professionnels ? Alors, pour répondre à cette question, il y a deux préalables. Le premier, et là je rejoins encore Frédéric et d'autres orateurs précédents, le premier c'est la question des sources. La question des sources qui est assez compliquée parce que c'est difficile de savoir comment on va trouver les épurés. Il faut connaître, pour avoir les dossiers d'épuration, il faut avoir les noms. Mais pour avoir les noms, il faut les connaître, sinon on ne peut pas. Par ailleurs, donc pour accéder aux cours de justice, il faut avoir les noms pour y arriver. Par ailleurs, il semblerait, et c'est assez bizarre, que l'accès aux archives se soit fermé. Non pas par volonté administrative ou politique, mais pour des raisons qui sont, je dirais, à la fois bizarres et conjoncturelles. Je donne un exemple. Il y a donc maintenant, j'ose à peine dire plus de 20 ans, j'avais été au Conseil supérieur de l'Ordre des architectes. J'ai demandé les procès-verbaux des conseils d'administration, qui sont des documents publics, et je les ai tous eus. De la création de l'ordre en 40, où il n'y avait pas encore de PV, mais il y en a eu dans le tout début de l'année 41, jusqu'en 45. Donc j'ai vu tous ces PV, ils étaient là. De même, j'avais demandé les inscriptions à l'ordre national. J'ai eu un fichier avec des fiches manuscrites, où il y avait écrit le nom de l'architecte, sa région, ce qu'il avait fait, ses diplômes, etc., etc. Donc, un matériel tout à fait intéressant. Je ne sais plus où il est. C'est-à-dire qu'au Conseil national, ils ne savent plus. C'est perdu dans les déménagements. Ils disent que ça a été versé aux archives de Paris ou nationales, ce n'est pas clair. Bon, je suis en train d'instruire le dossier. Peut-être un jour, je retrouverai d'autres documents. Mais en tout cas, c'est assez difficile d'avoir ces documents. Autre source qui aurait été intéressante, je vais en parler un peu plus longuement, les dossiers qui se trouvent dans les comités de confiscation des produits, des profits illicites. Alors, ces dossiers, il y a des noms. Des listes et des listes, il y en a des milliers, et il y a juste le nom et la profession. Donc il faut tourner les pages des dossiers, trouver architecte, éventuellement maîtreur, pas entrepreneur, parce que l'épuration des entreprises, c'est autre chose, et après, il faut demander le dossier. Ah oui, mais le dossier n'est pas là. Et il faut des semaines pour faire revenir le dossier, on ne sait pas. Bon, donc, tout ça pour vous dire que c'est un travail en cours et malheureusement, j'espérais pouvoir... tout à l'heure, Jean-Louis m'a dit, alors ça fait 5%, j'en sais rien, je ne sais pas, peut-être un jour on se rend. En tout cas, pour l'instant, moi, je ne sais pas. Et heureusement, il y a des thèses en cours et on espère que les jeunes vont travailler et qu'ils vont finir par nous donner des chiffres. Le deuxième point qui fait que c'est assez compliqué de s'attaquer à cette question de l'épuration, c'est l'épuration elle-même. Il faut rappeler quelles sont les procédures de l'épuration. En fait, si je ne prends que l'épuration légale, je ne m'occupe pas de l'épuration extrajudiciaire où un ou deux architectes ont pu être abattus parce qu'ils étaient connus pour être des collaborateurs, je mets ça de côté. Donc, si on s'en tient à l'épuration légale, elle prend trois formes. Une forme judiciaire, une forme administrative et une forme économique. L'épuration judiciaire est mise en place par le gouvernement provisoire de la République. C'est une juridiction d'exception, je ne détaille pas. Elle est définie, en tout cas, par une ordonnance du 26 août 1944. C'est une loi rétroactive et ce qui nous intéresse, c'est que celui qui est inquiété est condamné et est puni de la déchéance de ses droits civiques. Alors là, on peut avoir dans les chambres civiques, on peut avoir les dossiers et on voit qui est condamné. En gros, si j'ai bien compté, mais je vous donne ces chiffres, il faut les prendre avec beaucoup de précaution, une centaine d'architectes, donc il faut compter les 6 000, hein, donc 100 sur 6 000, ça fait quand même une proportion pas très importante. Ces 100, ils ne sont pas tous condamnés. 100 ont été inquiétés et après ils ont été soit relaxés, soit condamnés par les cours de justice ou par les chambres civiques. Alors, pourquoi ils ont été condamnés ? Ça n'a rien à voir avec l'architecture. Ça, c'est une question politique. Ils sont condamnés parce qu'ils ont eu intelligence avec l'ennemi. Alors, tout après, toute la question à savoir ce que c'est qu'intelligence avec l'ennemi. Parce qu'ils ont appartenu à la milice, au groupe collaboration, ou parce qu'ils ont rendu des services à la Gestapo. Bon. Donc, ça n'a rien à voir avec leur, en principe, leur activité d'architecte. La question est de savoir, je vais revenir sur la question de l'ordre, qu'est-ce qu'on fait des condamnés ? Pas des inquiétés, puisque les inquiétés sont relaxés, donc c'est fini pour eux. Mais ceux qui sont condamnés, est-ce qu'ils peuvent continuer à être architectes ? Et ça agite beaucoup l'ordre qui va continuer, je vais expliquer pourquoi dans un moment. Et finalement, l'ordre des architectes dit, bah, après tout, ils peuvent continuer à exercer leur profession. Mais ils n'ont plus leurs droits, ils ont été condamnés à l'indignité nationale, ils ne peuvent pas voter, mais ils peuvent construire. Donc, sur le plan strictement professionnel, ça ne change rien. Ça fait quand même un peu gênant dans le contexte de 45. Donc, finalement, il est dit qu'ils peuvent continuer à être inscrits au tableau de l'ordre, ils peuvent continuer à travailler, mais ils ne peuvent pas siéger dans les conseils régionaux et au conseil national, parce que quand même, là, c'est peut-être un peu trop. Donc, finalement, une épuration judiciaire, on va dire assez légère, qu'il faudrait rapporter à l'épuration judiciaire de l'ensemble de la France, et donc ça reste dans les mêmes fourchettes, c'est ni plus ni moins à peu près, je vais très vite. Deuxième type d'épuration, l'épuration administrative. Alors là aussi c'est intéressant et un peu complexe, puisque l'épuration administrative vise à exclure des postes de responsabilité ceux qui ont, selon l'expression, rompu le pacte national. Autrement dit, si on veut parler simplement, tous ceux qui ont été, d'une façon ou d'une autre, dans les instances de Vichy, à quelque niveau que ce soit. C'est une chose, et on a parlé amplement depuis ce matin de ce fameux commissariat technique à la reconstruction immobilière, où il y a eu, en effet, tout un personnel d'architectes qui a travaillé là, je vais en dire deux mots tout à l'heure, ils étaient là. Mais en même temps, et c'est là où les choses se compliquent, en même temps, De Gaulle a eu... on peut dire l'intelligence, après on peut discuter de savoir quelle est cette intelligence, de décider de faire une distinction entre les techniciens et les politiques, avec l'idée que si on mettait dehors tous les fonctionnaires et tous les techniciens qui avaient travaillé pendant la guerre, ce serait plus dur de reconstruire, on avait besoin de personnel. Donc, ont été déchargés d'accusations, ceux dont on a dit qu'ils étaient des gens qui faisaient un travail administratif. Or, cette façon de voir les choses, qui était une façon de cimenter l'unité nationale et de ne pas élargir la fracture qui pouvait mener à la guerre civile, a protégé les architectes. Je prends l'exemple de ce fameux commissariat technique à la reconstruction immobilière. Aucun des membres, je les ai tous épluchés, ça, là, il y a les archives, c'est aux archives nationales, aucun des membres de ce comité n'a été inquiété, sauf le directeur. Le directeur a été mis dehors, mais sinon... Enfin, il n'a pas été mis dehors, il a été mis à la retraite. Hein. Il a eu droit à, je ne sais plus comment on dit, mais il a fait valoir ses droits à la retraite. Voilà quelle est l'expression. Donc Muffan, un ingénieur qui a dirigé ce comité. Les autres, non seulement ils n'ont pas été inquiétés, mais ils ont tous, sauf ceux qui ne le voulaient pas, mais il n'y en a pas eu beaucoup, ils ont été reversés dans les nouvelles institutions créées pour la reconstruction, c'est-à-dire le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Donc sur le plan administratif, une épuration vraiment très légère qui s'est faite en fonction des directives politiques. Les politiques, c'est une chose, les techniciens, c'est une autre, et on ne touche pas aux techniciens. Reste le troisième niveau, qui est l'épuration économique. Alors là, l'épuration économique a joué de façon assez importante, parce que cette épuration économique visait à confisquer les bénéfices qui avaient été réalisés par ceux qu'on appelait les profiteurs de guerre. Elle visait d'abord et en priorité les agences, pour ce qui est des architectes, les cabinets, les agences qui avaient travaillé pour des chantiers civils ou militaires allemands. Ça veut dire réfection d'immeubles, aménagement de casernes, aménagement de logements, construction d'aérodromes, et puis bien sûr les casemates des murs de l'Atlantique et de la Méditerranée. Alors, ces activités-là sont évaluées par la commission des profits licites. Il y a plusieurs commissions dans chaque département, et là, on va dire que les sanctions ont été prises. Et tous ceux qui avaient travaillé, et il y en avait beaucoup, d'une façon ou d'une autre, directe ou indirecte, pour l'occupant, eh bien, ils étaient condamnés à restituer ce qu'ils avaient gagné, leur gain, et c'était assorti ou non d'une amende. Mais ils avaient le droit de continuer de travailler. Donc, ils avaient des chantiers, ils payaient, et puis au bout d'un certain temps, ils avaient fini de payer et on n'en parlait plus. Surtout qu'à partir de 1947, ont commencé les premières lois d'amnistie et les restitutions ont été importantes, je ne peux pas les chiffrer, mais disons que la dette a été relativement vite effacée. Alors, pourquoi j'ai rappelé ces trois types de sanctions ? C'est parce qu'en fait, il y a une imbrication de ces trois types du fait du statut des architectes. Car les architectes étaient à la fois une profession libérale et ils étaient aussi des fonctionnaires, fonctionnaires du ministère de la Poste. Ils travaillaient pour des administrations et donc ils avaient soit un statut vraiment de fonctionnaires, tout en gardant la possibilité d'avoir leur activité libérale, soit un statut qui les assimilait à des fonctionnaires. Ce qui veut dire que il fallait évaluer leur travail. Si c'était du point de vue administratif, en tant que fonctionnaire, ils ne pouvaient pas être inquiétés, mais ils pouvaient être inquiétés si dans leur agence, ils avaient travaillé pour l'ennemi. Et chose qui compliquait encore la situation, c'est que, et je vais y venir, j'espère que je ne vais pas trop déborder, c'est que c'est l'ordre des architectes lui-même qui a eu pour mission de faire cette épuration. Autrement dit, c'était l'ordre lui-même qui devait s'épurer d'une façon ou d'une autre. Donc c'était un peu compliqué. Alors, quelle est la complexité ? Elle vient du fait que, dès la libération, pendant l'été 1940, s'est posée la question, est-ce qu'on garde l'ordre ? Est-ce qu'on garde l'ordre ? La plupart des membres des conseils régionaux et du Conseil national trouvaient que, bien évidemment, il fallait garder l'ordre. On avait tellement attendu un ordre, on l'a eu, il fallait le garder. Mais il y avait des gens, et en particulier les quelques architectes qui faisaient partie du Front national des architectes, un organisme résistant, ou même tout simplement des architectes résistants qui n'étaient pas affiliés au Front national. On avait vraiment... ils en voulaient beaucoup à l'ordre qu'ils trouvaient avoir été un organisme finalement défenseur de Vichy, qui n'était en rien opposant à Vichy, et finalement ils voulaient régler leur compte, c'est-à-dire mettre dehors les notables qui étaient les membres de ces différents conseils et prendre leur place. Alors il y a eu des passations de pouvoir qui se sont faites de façon violente, à Paris en particulier, où il y a des résistants qui sont entrés, il y avait Tournon qui était là et tous les autres. Bon, enfin, c'est des histoires qui ne sont pas très bien documentées. Là aussi, c'est des choses qu'on raconte. En revanche, c'est très bien documenté pour deux conseils régionaux, à Toulouse et à Marseille. Pourquoi à Toulouse et à Marseille ? Tout simplement parce que les commissaires de la République étaient des commissaires de la République, qui étaient du côté gauche, qui étaient plutôt, surtout à Marseille, avec Aubrac, plutôt du côté des communistes, et... comment il s'appelle ? Enfin, celui de Toulouse, pareil. Et... Pardon ? Non, c'était pas Ravanel, mais bon, c'était un copain de Ravanel, peu importe. Et donc, au lieu, au moins dans ces deux conseils-là, je pense qu'il y a eu aussi quelque chose dans le Nord, mais malheureusement, dans le Nord, on me dit qu'il n'y a pas les archives. Heureusement, il paraît qu'elles y sont peut-être, donc j'irai voir, on verra. Mais en tout cas, dans ces deux régions, les commissaires de la République n'ont pas suivi la procédure légale, qui était les anciens conseils restent en place tant qu'il n'y a pas des nouvelles élections, donc ils continuent leur travail, on ne les met pas dehors. Et à Marseille et à Toulouse, ils ont été mis dehors manu militari, et il y en a d'autres qui ont pris leur place, et horreur parmi ceux qui avaient pris leur place. D'une part, évidemment, il y avait des résistants, mais surtout, il y en avait qui n'étaient pas inscrits à l'ordre. Alors là, quand même, où allait-on ? Donc, les choses se sont passées un peu difficilement. Dans d'autres régions, comme à Tours et à Bourges, où on a aussi les archives, ça s'est passé tout à fait tranquillement. En fait, ils sont restés en place. Les autres, on en a pris un de plus, mais ceux d'avant sont restés. Et ça n'a pas posé de problème. Alors, là-dessus, les nouveaux conseils régionaux doivent être élus et ils doivent s'occuper de l'épuration. Alors, en fait... ce qu'ils font, c'est qu'ils sont obligés d'accepter dans tous les conseils régionaux au moins un représentant des groupes de résistance, ce qui donc était tout à fait nouveau, et un représentant des non-diplômés. Ça a été difficile à admettre parce qu'il y avait le spectre de si on reprend des non-diplômés, est-ce qu'on ne va pas perdre tout ce qu'on a gagné ? C'était Cassou. Bon, alors, c'est pas étonnant que Cassou n'ait pas tout à fait suivi la procédure légale. Alors, qui sont les épurés ? La section d'épuration est saisie parce que, tout de suite, quand l'ordre a eu pour mission de faire l'épuration, tout de suite, les membres du Conseil... parisiens, mais ailleurs pareil, ont mis en garde contre les effets de revanche, de règlement de compte et de délation, en disant il faut faire attention des plaintes qu'on reçoit. Donc finalement, la section d'épuration est saisie soit par le ministère de l'Éducation nationale, dont relevaient les architectes, soit par des plaintes signées et motivées. Donc on ne pouvait pas juste dire celui-là à collaborer, il faut l'épurer. Elle ne peut être saisie que dans un délai de 3 mois après la publication de l'ordonnance. Or, la publication de l'ordonnance, elle est, je rappelle la date, si je la trouve, elle est de septembre 45. Donc, en principe, jusqu'en 45, il n'y a pas eu de procédure d'épuration légale, même s'il y a des dossiers qui ont commencé à être instruits, et la décision doit être rendue dans les 6 mois. Dans les 6 mois, mais pendant ce temps-là, il faut entendre les architectes qui sont inquiétés, tous les témoins, et il faut instruire tout un dossier. Donc, en fait, ça dure beaucoup plus longtemps. Et alors qu'au début, les sanctions sont un peu plus fréquentes, plus le temps passe et moins elles sont fréquentes. Ces sanctions, elles sont, vous allez voir, elles n'ont rien à voir avec les sanctions judiciaires. C'est un blâme, c'est la sanction la plus basse. Un blâme en chambre du Conseil de l'Ordre, un avertissement avec inscription au dossier, une suspension pour une durée qui ne peut pas excéder 5 ans. Et quand on regarde les quelques dossiers qu'on a, ça dure rarement 5 ans. En général, ils sont réintégrés avant. Et la radiation du tableau. Alors, la radiation du tableau, elle a vraiment beaucoup, beaucoup occupé les différents conseils, que ce soit à Paris ou dans les régions. Est-ce qu'on radie ou est-ce qu'on radie pas? Évidemment, la base voulait radier, parce que si on radiait, ça enlevait de la concurrence. Mais les instances hiérarchiques ont essayé de radier le moins possible. Alors maintenant, évidemment, vous allez me dire combien, je ne sais pas. On avait fait, il y a 20 ans, quand on avait fait cette première étude, avec Frédéric Boucher, une base de données. Il y a 20 ans, les bases de données, c'était moins facile à faire que maintenant. Et sur les 6000 architectes de toute la France, on en avait relevé 1000, ce qui est déjà pas mal. Sur les 1000, on trouve 20 radiés, c'est quand même pas beaucoup. Et il n'y a pas la raison. Donc, on ne sait pas si c'est judiciaire, si c'est administratif, ça, je suis presque sûre que non, ou si vraiment ils avaient fait trop de profits illicites. Donc, pour finir, je dirais que dans l'état actuel de la recherche, et en fait, c'est un appel à la recherche, s'il vous plaît, mettez-vous à travailler sur ces questions. Je pense qu'on les trouvera, les archives, et on doit pouvoir travailler. En tout cas, dans l'état actuel de la recherche, l'épuration sous son triple aspect judiciaire, administratif et économique a répondu à une double logique de la défense de la profession. D'une part, une certaine sévérité patriotique, limitée mais quand même certaine, qui pouvait masquer des règlements de compte et une volonté d'éliminer les concurrents, et de l'autre, une indulgence qui, en fait, répondait à ce qu'était l'ordre des architectes qui représentait les architectes depuis le 31 décembre 40, une protection de l'ensemble de la profession. Et je ne suis pas une adepte de l'histoire quantitative, mais c'est absolument indispensable. Donc je dirais qu'en l'état actuel des choses, moins de 5% d'architectes ont été inquiétés et environ 2%, donc des 6000, ont été sanctionnés par une de ces trois sanctions. Je vous remercie.